Bonjour, bienvenue à cette édition de Radio Linguistica. Comme vous savez déjà, peut-être nous avons fusionné Radio Economica et Radio Linguistica sous le seul nom de Radio Linguistica. Nous continuerons donc à faire, à côté des émissions clairement linguistiques, les interviews consacrées aux défis économiques et politiques destinés à fournir des contextes, des informations de background. Voici aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui réapparaît régulièrement à la une, l'Iran. Je souhaite la bienvenue à Xavier Dupré, un journaliste que vous connaissez probablement de nos émissions précédentes. Bonjour Xavier.
Bonjour Conrad.
Un nouveau conflit armé entre Israël et les Palestiniens vient de se terminer. Mais en suivant nos médias pendant le conflit, je n'avais pas toujours l'impression qu'on posait les bonnes questions. Par exemple, la question assez évidente, d'où viennent les missiles très modernes et chers que le Hamas a tirés abondamment sur la population civile en Israël? Mais quand on posait la question, la réponse était presque toujours de l'Iran. Il ne faut donc pas parler seulement du nucléaire dans nos relations avec l'Iran. L'enjeu est beaucoup plus vaste. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais d'abord, parlons de l'accord nucléaire. Quel a été son historique et ses enjeux? Qui a participé et quel a été le rôle de l'Union européenne?
Alors, le dossier nucléaire iranien est un dossier très ancien, puisqu'en fait, alors c'est un dossier de nucléaire civil, hein, donc on parle bien d'application civile. Le Shah, dans les années 70, était en voie de développer une coopération avec un des géants du nucléaire de l'époque, la France, pour mettre au point une filière nucléaire civile iranienne. Bien, la fin du règne du Shah a été ce qu'elle a été. Il y a eu la révolution islamique de 79 et le retour. Bon, évidemment, la guerre entre l'Iran et l'Irak n'a évidemment pas a mis un petit peu ce dossier au frigo. Il a été mis entre parenthèses, il a été ressorti au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, on voit le dossier ressortir. Ahmadinejad, le président Ahmadinejad, au début des années 2000, le remet sur la table. Et à ce moment-là, l'Iran se heurte à une volée de sanctions. La question qui se posait était clairement. Mais est-ce que l'Iran va, oui ou non, développer du nucléaire militaire? L'Iran va, pour cette réorientation, en raison de cette réorientation, subir les foudres des sanctions, même de l'Union européenne. Ce dont on s'est aperçu, c'est que tant que l'Iran pouvait vendre du pétrole, il pouvait développer son arsenal, de toute façon. Et donc, l'idée qui va émerger du côté des États-Unis, mais au départ plutôt d'inspiration européenne, c'est de ramener l'Iran autour de la table des négociations, de parler aux Occidentaux et d'avoir un certain nombre de balises sur un accord concernant le nucléaire et la garantie de sa stricte limitation au secteur des applications civiles. En Iran, ces ballons d'essai sont perçus, de la part des Occidentaux, ce discours-là est perçu de manière intéressante par une partie importante du personnel politique iranien. C'est ainsi que l'actuel président Rouhani a été élu par la population sur la base, c'est vraiment sa grande promesse de campagne, avoir un accord avec les Occidentaux. Les choses vont bien se passer puisqu'en 2 ans, on va réussir à débloquer un dossier qui était bloqué depuis, on est en 2015, début des années 2000, ça faisait 15 ans que le dossier nucléaire iranien était complètement. D'abord que, un, l'Iran était entré effectivement de plein pied dans la maîtrise de la technologie nucléaire, et sans contrôle de personne. En 2 ans, on débloque un dossier, on a un accord. Que dit cet accord? Que le niveau d'enrichissement, il a été obtenu, cet accord, je me permets, excusez-moi pour le petit retour en arrière, il a été obtenu à la faveur des bonnes intentions de l'administration Obama. Parce que sans les Américains, de toute façon, rien n'aurait bougé. Même s'il y avait vraiment des ballons d'essai européens qui avaient précédé la conclusion de cet accord. Il dit ceci, on ne peut pas enrichir le nucléaire en Iran au-delà d'un certain niveau. La bonne garantie de cette ligne rouge, de l'application de cette ligne rouge, va consister en des applications, en des visites et des inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et ces visites, ces inspections de l'AEIE étaient inopinées et organisées selon un agenda qui n'était en rien concerté avec les autorités iraniennes. Donc le secteur nucléaire iranien était quelque part mis sous tutelle internationale. Des rapports étaient émis qui visaient à détailler l'état du développement de la filière nucléaire iranienne et de ces rapports, on peut constater que globalement, enfin vraiment tout à fait de manière tout à fait fondamentale, l'Iran appliquait strictement les orientations qui avaient été définies dans les accords de Vienne. Il faut dire aussi que c'était dans l'intérêt de l'Iran de le faire, puisque à l'époque, le pays était quand même soumis à de terribles embargos d'investissement, tant à la fois de l'Union européenne avant les accords, tant de l'Union européenne que des États-Unis, ce qui représentait quand même un manque à gagner sur le plan économique. Donc, si vous voulez, l'un dans l'autre, on est arrivé à cette situation où un accord est appliqué. Lorsque Donald Trump est élu, il avait déjà décidé que, oui, c'est avec une grande hache, qu'il fallait vraiment faire passer, il fallait éliminer cet accord. Bien. En 2018, l'Iran est à nouveau mis sous sanctions, des sanctions très dures de la part des États-Unis, puisque même la banque centrale iranienne aujourd'hui est déconnectée du système SWIFT, des systèmes électroniques de paiement internationaux. Donc c'est quand même le seul pays au monde qui, par exemple, hein, aujourd'hui le FMI décide d'allouer des fonds supplémentaires aux pays qui ont été très touchés par la pandémie. L'Iran est membre du FMI, mais la Banque centrale iranienne, puisqu'elle est déconnectée des réseaux de paiement électronique, ne pourra pas recevoir ce pourquoi elle a voté avec tous les autres membres du FMI. Donc ces sanctions très dures sont appliquées. Le résultat aujourd'hui, 3 ans plus tard, puisque c'est en 2018 que Donald Trump a pris cette décision, c'est que globalement, il y a une impression au sein du personnel politique de haut niveau en Iran qu'on ne peut pas faire confiance aux Occidentaux, qu'il vaut mieux à la limite, pour certains d'entre eux, avoir l'arme nucléaire, puisque avec l'arme nucléaire, l'Iran est incontournable au Proche et Moyen-Orient. Oui, ça c'est l'équilibre de la terreur met l'Iran au centre du jeu. Et pour satisfaire des objectifs de croissance économique qui sont contrecarrés par ces sanctions, et si l'Iran se dirige vers la possession de l'arme nucléaire, les sanctions occidentales vont se maintenir. L'Iran a conclu il y a à peine un mois un accord stratégique d'investissement qui porte sur 25 ans avec la Chine. Donc l'Iran pourrait très très bien, à l'avenir, disposer de revenus d'exportation qui garantiraient une certaine croissance économique de la part de la Chine, tout en ayant l'arme nucléaire. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Évidemment, ce partenariat stratégique, puisqu'il profile aussi, il profile la Chine au centre des relations internationales au Proche et Moyen-Orient, a ramené les Occidentaux autour de la table, et Joe Biden, qui avait beaucoup traîné à appliquer les promesses, c'était compliqué, les promesses de sa campagne électorale, aujourd'hui tout le monde est autour de la table, et sans doute, on peut le supposer, un accord, enfin un retour à l'accord de 2015 va être conclu. En tout cas, ça se passe plutôt bien, même si les États-Unis sont encore très sceptiques, et Israël aussi.
Donc, on revient aux négociations, mais est-ce qu'on peut revenir au status quo ante de Trump? Ou est-ce que c'est impossible maintenant?
C'est en tout cas ce que souhaite l'Iran. Et je pense que ce serait déjà un premier pas. Alors, ce qui a été, ce que vous avez, Conrad, parce que vous avez signalé, l'exportation de missiles balistiques, le développement balistique important, le soutien des groupes armés, ça va du Yémen, évidemment, au Hamas ou au Hezbollah en Iran, et tout ça est là, mais ce n'est pas nouveau. Le Hezbollah a été fondé dans les années 80 du siècle dernier. Le Hamas a été soutenu à Gaza et a déjà procédé à des tirs sur Israël au milieu des années 2000, il y a une quinzaine d'années. Donc tout ça n'est pas nouveau. Je pense que l'idée qu'aujourd'hui on pourrait acculer l'Iran à refuser ses liens avec des groupes dits terroristes, parce qu'on pourrait se poser des questions, je me demande parfois si certains États dans la région ne sont pas terroristes eux-mêmes, en soi, mais enfin bon. Enfin, quand on voit par exemple la violence de l'intervention de l'Arabie Saoudite au Yémen, nuançons, il y a parfois de la violence d'État qui est terrible. On ne pourra pas, en tout cas, dans le cadre de ces négociations, élargir le volet des conditions qu'on est prêt à imposer à l'Iran pour la levée des sanctions. L'Iran sort renforcé de cet épisode de tension, puisqu'il a cet accord avec la Chine. Et demain, des systèmes de paiement électronique qui seront, si vous voulez, centralisés à partir de la Chine et de la Russie, qui est un grand partenaire de l'Iran dans la région, dans 5 ans, ça va exister. Donc, quelque part, la violence de nos sanctions, la portée de nos sanctions, elle va s'amenuiser avec le temps. Donc, l'important, je trouve, aujourd'hui, c'est de ramener les Iraniens autour de la table et de dégager un accord. Si on veut obtenir plus par la suite, il faudra sans doute être très patient, parce qu'aujourd'hui, les Iraniens, enfin le personnel politique iranien, tel qu'il se compose aujourd'hui, est plutôt méfiant à l'égard des Occidentaux. Vous savez, lorsque cet accord a été conclu en 2015, le ministre des Affaires étrangères iranien a bien pris soin de préciser que c'était un compromis dans lequel il y avait des frustrations de part et d'autre. Voilà, est-ce qu'on peut réagir à un compromis qui a été difficile à atteindre, qui est complexe? Est-ce qu'on peut réagir comme on l'a fait en 2018, enfin comme, pas nous les Européens, mais comme l'ont fait les États-Unis, qui sont une pièce majeure du dossier, en claquant la porte et en refusant, enfin en voulant revenir à un statu quo, obtenir des choses qui n'avaient pas été négociées? Là, il y a une vraie responsabilité qui a été prise par l'administration Trump, et je pense qu'on n'est toujours pas sorti de cet épisode. Donc, l'objectif, est-ce que revenir au statut, au statut d'avant les accords est réaliste? J'ai presque envie de dire non, puisqu'une série de sanctions n'ont même pas été décidées aux États-Unis en fonction de l'accord, mais de questions relatives aux droits de l'homme, on en reparlera sûrement. Mais en tout cas, revenir à, si vous voulez, un état de relations économiques entre l'Union européenne et l'Iran qui soit celui postérieur aux accords de 2015, ça c'est souhaitable, c'est atteignable, ça a même fait, si vous voulez, et ça permettrait de réamorcer le dialogue. Soit dit en passant, lorsque les États-Unis ont unilatéralement, quand même ne jamais rappeler, enfin, jamais oublier, pardon, que à cet accord sont parties prenantes les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Union européenne. Donc les États-Unis n'étaient pas seuls à décider, en plus de l'Iran, bien sûr. Je me rappelle en tout cas qu'on avait tenté de mettre au point des outils très complexes, et sans doute difficilement maniables, et pas forcément économiquement intéressants pour les Iraniens. Je pense notamment à l'initiative INSTEX. On l'avait mise au point.
C'est quoi?
En fait, INSTEX était une espèce de boîte d'échange exclusivement en euros, donc c'était une espèce de banque ad hoc qui n'avait aucune relation avec les États-Unis, aucun avoir en dollars, puisque un avoir en dollars, un échange en dollars suppose toujours à un moment donné une compensation par une banque américaine. Donc vous êtes sous le coup d'application des sanctions. Donc c'était une voie d'échange en euros qui portait exclusivement sur de l'alimentation, des échanges entre PME et de la nourriture. Ça intéressait peu les Iraniens parce qu'ils ne pouvaient plus vendre leur pétrole. Depuis, ils ont recommencé à vendre du pétrole avec la fin de la pandémie, la demande qui a augmenté en Asie. Simplement, ils le vendent à des taux, à des prix quand même très inférieurs au prix du marché, puisque, si vous voulez, les entreprises asiatiques, et principalement chinoises d'ailleurs, qui importent du pétrole iranien, pourraient faire l'objet de sanctions. Quelque part, cette épée de Damoclès, ben, elle se fait. Voilà, mais donc on avait mis au point des outils du côté de l'Union européenne qui étaient clairement destinés à contourner les sanctions qui avaient été édictées unilatéralement par les États-Unis. Donc,
Juste pour rappeler, ça s'appelle donc Instec.
Instex.
Oui.
Instex. Maintenant, les Iraniens étaient peu preneurs puisqu'ils étaient, ils sont exportateurs de pétrole et le pétrole ne passait plus par ce canal-là. Bon, donc, mais en tout cas, il y a vraiment eu de la part des dirigeants de l'Union européenne une forme de levée de bouclier très partielle. Enfin, le politique s'est mobilisé pour dire à quel point ces sanctions étaient unilatérales. Je rappelle quand même que personne, enfin, il n'y a pas un État européen qui a dénoncé cet accord, ni la Russie, ni la Chine.
Je résume donc, c'est Trump qui a rompu l'accord, pas parce que l'Iran n'avait pas respecté les règles, mais parce qu'il a introduit de nouvelles règles, de nouveaux champs. Il a ouvert de nouveaux champs des négociations qui n'étaient jamais dedans avant.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, la question qui s'est posée, c'est-à-dire que l'administration Trump était très proche de Riyad, et Arabie Saoudite, et était très proche de Tel Aviv, c'est-à-dire Israël, et il voulait absolument ajouter deux conditions pour que l'Iran puisse revenir dans la communauté internationale. C'était la question des missiles balistiques, ça c'était les intérêts israéliens, et la question du soutien à la révolution, la rébellion aussi, au Yémen. Et tout ça n'avait jamais fait l'objet de négociations, même pas de la part des Européens. Et donc évidemment, il a terriblement fragilisé la posture de dialogue de l'Iran avec les Occidentaux. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, l'Iran même sait qu'on ne reviendra pas au statut, à la situation enfin, qui a prévalu entre 2015 et 2018, mais se satisferait d'une levée des plus grandes sanctions économiques, de celles qui frappent le plus durement le pays.
Donc, maintenant, on voit que Biden est prêt à réouvrir le dossier, mais quelle serait la position ou le rôle des Européens là-dedans?
Ah, le rôle des Européens est tout à fait central. Je rappelle que dans ces négociations qui se déroulent à Vienne, les choses ressemblent plutôt à du théâtre de courteline, parce qu'en fait, les Iraniens et les États-Unis ne se côtoient jamais en personne, en vis-à-vis. Donc, le go-between entre les Iraniens et les États-Unis, eh bien, ce sont les Européens, les Chinois et les Russes. Donc on joue un rôle tout à fait fondamental dans la manière dont bien, les volontés des uns et des autres finissent par s'agencer de manière à pouvoir dégager un compromis. Donc le rôle de l'Union européenne sur le plan politique est central. Et je tiens d'ailleurs à signaler que jamais les dirigeants européens n'ont dénoncé de manière aussi virulente et unilatérale les accords de 2015 que par exemple a fait Donald Trump. De surcroît, lorsqu'on avait monté Instex pour essayer de contourner ces sanctions, la réalité s'est vite imposée à tout le monde. C'est que les grands projets, l'Iran n'a pas besoin spécialement de projets d'échange avec des PME européennes. Il a besoin d'investissements dans le secteur automobile, il a besoin d'investissements en électronique, il a besoin d'exploiter ses gisements gaziers, qui sont les plus importants de la planète après ceux de la Russie. Il comptait sur Total, il comptait sur PSA, il comptait sur Siemens. L'Iran, en tant que pays, comptait sur ces firmes qui avaient de gros échanges avec les États-Unis et qui ont claqué d'eux-mêmes la porte des accords, ayant peur d'être sanctionnés par les États-Unis du fait d'investissements en Iran. Il faut jamais oublier qu'une banque comme BNP Paribas avait été sanctionnée il y a quelques années de plusieurs milliards d'euros du fait d'avoir financé des investissements en Iran. Donc, Les Européens, le politique en Europe joue un rôle fondamental et qui est un rôle de go-between à côté des deux autres membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, que sont la Chine et la Russie. Donc, de toute manière, l'Iran aujourd'hui, si vous me posez la question, d'ici 5 ans, est-ce qu'il pourrait à la fois avoir l'arme nucléaire et une économie qui fonctionne au service de la Chine? Oui, c'est possible. Donc il faut dès maintenant revenir à l'esprit des accords.
Et ça, juste une petite épisode, c'est-à-dire les Américains ne négocient pas directement ou ne rencontrent pas directement les Iraniens, et c'est la Suisse qui représente les intérêts américains en Iran, si j'ai bien compris.
C'est cela.
Alors, il y a eu un épisode tragique il y a quelques semaines. Une collaboratrice de l'ambassade suisse, on dit, s'est suicidée, ça a été un accident. Est-ce qu'on peut y croire vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose là derrière ou est-ce qu'on n'a plus entendu parler de ça?
Personnellement, je n'ai pas eu d'informations suffisamment probantes pour pouvoir plaider une thèse plutôt qu'une autre. On est en tout cas dans un contexte où effectivement il y a beaucoup plus de tensions en Iran, et sans doute je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, franchement, je ne peux dire que ça. Je ne connais pas le fond du dossier. Maintenant, ce que je vois ici comme image m'influence un peu. Je dois quand même faire observer ceci, c'est que les mouvements sociaux qui ont existé en Iran sont postérieurs à la décision de Donald Trump de revenir sur les accords. La stabilité, ce qu'on met ici en évidence dans cette caricature, ce serait comme s'il existait un mouvement sociétal important en Iran pour vivre comme des Occidentaux. C'est pas ça. Ce qui s'est produit comme mouvements sociaux en Iran, ce sont des mouvements contre la vie chère, contre le manque d'emploi. Donc quelque part, à la limite, j'aurais bien envie d'ajouter que derrière le monsieur qui porte la pancarte Free Iran, il y aurait quelque part Donald Trump qui jette du feu quelque part aussi. Donc il faut vraiment être très très mesuré sur ces questions-là. Les Iraniens sont un peuple fier, fier d'être un vieil État de 3000 ans. Donc s'ils ont l'impression qu'à un moment donné, on veut leur forcer la main, ou on fait un peu l'impasse sur leur souveraineté, ils peuvent très très vite se raidir. Ils l'ont prouvé. C'est un pays qui a vécu très très isolé. Il n'est toujours même pas membre de l'OMC. C'est un pays qui a vécu très isolé. Donc évitons à un moment donné des postures trop manichéennes à l'égard de l'Iran. Ça ne fera pas avancer le dossier. Et je le dis aussi très clairement, le jour où ils auront une économie qui peut fonctionner avec la Chine et l'arme nucléaire, on sera vraiment dans une situation qui sera bien pire que celle-ci. Que celle que nous connaissons aujourd'hui. Je crois que le Moyen-Orient est une région qui peut encore nous montrer qu'on peut faire pire en matière de conflictualité interétatique. Donc, soyons dans la diplomatie. La diplomatie, c'était Talleyrand qui disait que la diplomatie, c'est forcément l'art de composer avec le mal. Mais nous représentons quelque part le mal pour les Iraniens, pour les dirigeants iraniens. La diplomatie suppose ça. Et tout accord sera toujours un compromis.
Mais parlons un petit peu plus sur la société iranienne, les affaires intérieures de l'Iran. Moi, je dois avouer, comme homme occidental, j'ai du mal à comprendre les élections iraniennes. À quel point ils sont contrôler, gérer, manipuler, falsifier, j'ai aucune idée. Est-ce que des élections, bon, dans les médias, on a souvent l'impression qu'ils attachent une certaine importance à ces élections. Alors, est-ce qu'ils peuvent vraiment apporter un changement?
Alors, les élections en Iran, oui, on parle de république islamique. Lorsque l'ayatollah Khomeini mène la révolution en Iran, et à l'époque, je pense que les Occidentaux n'ont jamais compris à quel point le clergé chiite était une force sociale. J'étais trop petit à l'époque, j'avais 4 ans, mais je consulte des documents de l'époque, on les trouve sur Internet aujourd'hui. La grande crainte était que l'Iran bascule dans le camp soviétique. Comme quoi, nous nous sommes souvent trompés concernant l'Iran chez nous. Ne soyons pas trop présomptueux. Mais il construit son idée de république, non pas, Khomeini, donc, dans son projet politique, construit un projet de république qui n'est pas conçu dans la filiation des Lumières européennes. Donc l'autodétermination de la société par elle-même. Sa république, c'est celle de Platon. Les gens peuvent s'autodéterminer dans les limites d'un bien qui leur est antérieur et qui a vocation à être éternel. Ce sont les idées de Platon. Voilà, c'est une république qui est à la fois islamique et platonicienne. Et donc, avant de se présenter aux élections, d'abord, le vrai chef de l'État est un guide, le guide de la révolution, qui est un clerc, dépositaire d'une vérité transcendantale, le Coran, Dieu. Ouais. Khomeini a réconcilié là le Coran et le platonisme. La validation des candidats aux élections procède d'un conseil national dont les membres sont désignés par le guide suprême de la révolution. Mais, une fois les candidats avalisés, les élections en Iran font l'objet d'une compétition entre des clans plutôt pro-occidentaux, des factions plutôt pro-occidentales, plutôt anti-occidentales, et là-dessus se superpose un clivage qu'on appellerait chez nous droite-gauche, c'est-à-dire des gens qui représentent plutôt les intérêts du monde des affaires et d'autres qui représentent des factions qui représentent les intérêts du monde populaire. Alors ces élections aujourd'hui sont sous haute tension. Le fait d'avoir l'échec de la stratégie Rouhani, du point de vue iranien, c'est un échec. En 2018, on leur a dit, vous avez fait des concessions et vous n'obtiendrez rien. Les sanctions sont de retour, et elles étaient même plus lourdes qu'autrefois. Bien, ça fait qu'aujourd'hui, le Conseil qui valide les candidatures ne valide que des candidatures qui sont plutôt anti-occidentales, des candidatures conservatrices. Évidemment, ça pose question. Alors, le grand favori, c'est le patron de la justice iranienne, Ebrahim Raisi, qui est un clerc, qui a été disciple de Ali Khamenei, et qui, au décès de Khamenei, devrait devenir le guide suprême de la révolution. Donc, c'est une figure très conservatrice. Lui-même est inquiet parce que la situation sociale et économique en Iran est compliquée, et il aurait très très peur d'être élu avec un taux de participation ridicule. Donc il en appelle lui-même à ce qu'il y ait davantage de compétition et davantage de présence d'éléments occidentaux, plutôt pro-occidentaux et un peu libéraux. Je dis un peu parce que l'Iran n'est pas le pouvoir politique en Iran, c'est pas une démocratie libérale occidentale. Mais pour qu'il y ait davantage une présence de cette sensibilité politique lors des élections. Et j'ai presque envie de dire que les accords plus ils seront rapides, plus nous ferons les concessions nécessaires, plus cette pluralité pourra être organisée, puisque maintenant les décisions sont irrévocables, donc il faudrait idéalement que le guide suprême de la révolution désigne ad nutum un nouveau candidat. Il y a 7 candidats pour le moment, et ils sont tous. Sauf deux qui sont quand même nettement moins connus, donc le président de la Banque centrale iranienne. Ce sont des candidats les plus connus, sont des candidats conservateurs. Donc plus vite il y aura un accord, plus vite se dégagera la possibilité pour le vice-président iranien, qui est un pro-occidental, un élément tout à fait favorable aux accords, il est sur la ligne de Rouhani, d'être désigné candidat. Voilà où on en est aujourd'hui. Je crois que la décision de Donald Trump en 2018 est une décision qui, si vous voulez, on sent bien que ça a été pensé par des gens autour de lui et par lui, surtout qui étaient dans le domaine des affaires. Les sanctions économiques vont amener directement un changement de régime. Eh bien ça, c'est une clé de lecture qu'on n'aurait sans doute une erreur de lecture qu'on n'aurait pas commise un politicien professionnel. Il ne suffit pas qu'il y ait une crise économique pour qu'un changement politique suive. À la limite, sur ce point-là, Donald Trump s'est montré très marxiste, en tout cas quelque part. Cette espèce de surdétermination par l'économique, ça ne fonctionne pas. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que ce qu'on voit en tout cas, c'est que l'appareil d'État iranien s'est raidi sur ses positions et qu'il va falloir le ramener à la table des négociations. Après, ce qui est vécu à Téhéran, c'est le vécu des acteurs qui compte, pas une vérité objective. Ne soyons pas platoniciens, nous. Les acteurs en Iran voient tout ceci comme une immense trahison des Occidentaux.
Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup pour ce résumé très intéressant, très informatif de relations avec l'Iran. Espérons que la situation se rétablit dans le mois qui vient. Eh bien, merci beaucoup et au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.